matin à tous. Bienvenue au show du matin. Max, comment ça va?
Top niveau, toi, mon GF, en pleine forme?
Ça va super bien. Ça va très, très bien. Grosse semaine. Hey, Max, je te relance encore là-dessus. As-tu écouté? Parce que là, je sais que tu vas être un peu plus de bonne humeur, là, vu qu'ils ont gagné. Mais t'as-tu écouté? T'as-tu regardé un peu là, hier?
Non, zéro. Trop fatigué. Deux games de hockey. Pratique de baseball à l'ABC. Trop fatigué pour. Je me couche de bonne heure. C'est,
c'est correct. Tu fais bien. C'est le bon moment pour te coucher de bonne heure.
Je suis un petit peu Vladimir Guerrero Junior, mais sinon, tranquille.
Ouais, il y a le fun à regarder, le stand.
Ouais, pas mal.
Max, on invite les gens, en fait, je commence tout de suite avec ça, mais on invite les gens à aller sur les plateformes audio, les plateformes podcasts. Bientôt sur YouTube, tous les podcasts qu'on a fait à date pour la saison 2 et les vidéos vont être disponibles sur YouTube. Donc, toutes les adresses là, disponibles de podcasts, je vous invite à vous y rendre pour regarder ça ou écouter ça, évidemment. Absolument. Max, gros show aujourd'hui. Je te laisse présenter un peu notre show du matin.
Oui, un gros line-up avec deux excellentes têtes de baseball. On va avoir, on va terminer avec Sylvain Saint-Don. On va commencer avec Pierre Arsenault en entrevue. C'est lui qui a passé l'été avec Équipe Québec. Donc, ça va être très intéressant à écouter pour ce matin.
Yes, on va faire une petite pause puis on s'en va rejoindre Pierre immédiatement. Tu sais, on ne perdra pas trop de temps. On s'en va rejoindre Pierre.
Play ball!
Salut Pierre!
Hey, salut messieurs, ça va bien?
Ça va bien, toi? Super bien, toi?
Ah, ça va très bien. C'est le fun d'être de retour à la maison et puis de suivre le baseball de la maison.
Ouais. J'en doute pas. Puis je commence tout de suite avec ça, en fait, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, Pierre, tu m'as dit que tu étais content de te rapprocher de la maison. Ça fait longtemps que tu n'avais pas passé un été au Québec. Puis là, boum, tu te ramasses aux États-Unis pendant une trentaine de matchs. Puis à Québec aussi, c'est quand même quelques heures de Montréal. Comment tu as vécu ça, toi, puis la famille, en fait?
Ben, disons, la dernière fois qu'on s'est parlé, les plans étaient d'avoir une saison normale dans la Ligue Frontier et puis de passer du temps de qualité à Québec et d'avoir des matchs à Trois-Rivières, d'avoir des matchs à Ottawa. Alors, ça m'aurait permis justement d'être à la maison beaucoup plus souvent. Mais comme on sait, la COVID a décidé autrement et puis on était obligé de s'exiler aux États-Unis pendant, comme tu l'as dit, une cinquantaine de matchs et le camp d'entraînement. Mais ce qui a rendu l'expérience vraiment incroyable pour moi, c'est... Les joueurs qu'on avait, les joueurs que Pat Scalabrine et moi avaient sous la main, c'était des joueurs de qualité, des bons gars, des travaillants. On n'a pas eu besoin à lever le ton, à donner des coups de pied dans le derrière. C'est sûr et certain qu'on a passé des périodes difficiles où les joueurs étaient fatigués. Ouais. Mais c'est normal que tu es dans l'autobus, tu embarques dans l'autobus à 11h le soir, tu arrives dans une ville à 8h30 le matin et puis tu as un match le soir à 7h. Alors, ça a été long. Ça a été difficile au début, mais je pense que notre série sur le Sunday, c'est lorsqu'on a eu la chance de revenir au Québec parce que l'atmosphère était incroyable à Québec et à Trois-Rivières.
Ça a été quoi la plus grosse différence entre, tu sais, tu as connu le baseball majeur, le day-to-day dans le baseball majeur. Là, tu es allé dans la Frontier où c'est des professionnels, mais c'est des gars qui sont beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas l'expérience du baseball majeur. Ça a été quoi la plus grosse différence entre les deux groupes de joueurs que tu as pu côtoyer?
C'est une très bonne question, Max. Les joueurs qu'on avait, c'est des joueurs... Tu sais, il y en a beaucoup qui n'ont jamais joué affilié, qui n'ont jamais joué baseball professionnel avant cette année, qui ont joué dans des collèges américains. Alors, il y avait certains... Il y en a qui ont eu quand même la chance de jouer aux États-Unis. On avait Giff Ngope qui a joué dans les ligues majeures brièvement avec les Pirates et les Blue Jays. Alors, on avait toutes sortes de joueurs. Mais comme je disais, les gars étaient vraiment pas là pour l'argent, là. Tu sais, quand un joueur, une recrue gagne 600 $ par mois, sont pas là pour l'argent, sont là pour les bonnes raisons et sont là pour le rêve. Et le rêve de tous ces joueurs-là, c'est justement de captiver l'attention d'un dépisteur professionnel et d'avoir la chance justement de peut-être se joindre à une équipe professionnelle des ligues majeures dans le baseball affilié. Et c'est pour ça que je vous disais en début d'émission que les joueurs étaient tellement motivés, arrivait toujours prêt à jouer. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, il y a eu certains petits pépins, mais rien de majeur. Et puis, c'est ça la grande différence, c'est que les gars se sont créés des liens incroyables pendant tout l'été. Et on jouait vraiment ensemble. Tu sais, c'était vraiment le concept d'équipe. Moi, je pense à un gars, Riley Pittman. Tu sais, le monde ne connaît pas Riley Pittman, mais c'est un gars qui était en alignement partant en début de saison. Et lorsqu'on est allé chercher Raphaël Gladue et d'autres joueurs, il a eu un rôle de second plan, mais il a toujours accepté son rôle et il n'a jamais eu une attitude négative envers l'équipe. Et c'est le genre de noyau qu'on avait autour de cette équipe-là. C'est que les gars tiraient la couverture du même côté et c'est ce que j'ai bien, bien, bien aimé de l'expérience. C'est justement les joueurs à l'extérieur du terrain et sur le terrain qui étaient vraiment dévoués à leur œuvre.
J'ose croire que de partir une cinquantaine de matchs aux États-Unis, des gars de deux organisations différentes, des personnes comme toi qui arrivent de l'extérieur, il y a d'autres gars aussi qui sont arrivés de l'extérieur. Une cinquantaine de matchs aux États-Unis pour commencer l'année, vous êtes connus, vous êtes tissés serrés. J'imagine que vous avez formé une famille en commençant l'année, c'est pas mal certain, là.
Oui, parce qu'on était à Albany pour le camp d'entraînement et tout de suite, on s'est déplacé vers Saint-Louis pour passer comme 9-10 jours, jouer des matchs d'exhibition. Et ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long pour que les gars connaissent le gérant Pat, pour que les gars connaissent l'instructeur, le lanceur, le Pierre Arsenault. Et ça n'a pas été long pour nous autres de connaître nos joueurs qu'on avait sous la main. Et c'est l'aspect positif, hein. C'est comme le Canadien qui allait dans des hôtels pendant les séries pour rester ensemble, pour vraiment, là, créer l'esprit d'équipe. Et nous, la chimie a pris dès le début et je pense pas que c'est à cause de moi ou de Pat que c'est arrivé. C'est sûr qu'on a contribué, mais on avait tellement Giff Ngopi, qui était un de nos instructeurs, a joué un rôle là-dedans aussi. Les thérapeutes, préposés à l'équipement, tout le monde a embarqué dans l'aventure et personne chialait. Ça n'a pas été facile. L'autobus, juste aller à la salle de bain en arrière, là, c'était toute une aventure. Fallait être acrobate avec des gars de 6 pieds 5, 250 livres qui étaient couchés au sol. Et à mon âge, c'est un peu plus difficile à se déplacer. Alors, non, ça a été une expérience incroyable que les joueurs, je pense, vont se souvenir longtemps. Et je souhaite vraiment, là, sincèrement, qu'on ait des joueurs qui aient la chance de monter à un plus haut niveau parce qu'il y en a plusieurs, c'est ça qu'ils recherchent.
Excellent. Tu as parlé un petit peu de Pat Scalabrini. C'est un des entraîneurs au Québec pour lequel j'ai beaucoup de respect et avec qui j'échange souvent. Puis quand on parle de monter des équipes, il parle souvent d'avoir des bonnes personnes, d'avoir des gens qui vont embarquer dans le bateau qui ne seront pas trop selfish. Ça a été comment de côtoyer Pat Scalabrini pendant tout un été de temps? Puis c'était quoi ta relation avec lui? Comment ça a été?
Ah, ça a été, moi, ça a été extraordinaire. J'ai adoré travailler avec Pat. Et puis je pense qu'on avait la même vision quand ça vient justement à l'équipe. Et puis parfois, à talent égal, c'est toujours plus important, je pense, de prendre la bonne personne, le joueur qui va se dévouer, comme je mentionnais tantôt, Riley Pittman, qui a presque pas joué en deuxième moitié de saison, mais qui était tellement une bonne influence au sein de l'équipe et des autres joueurs, que, tu sais, ça apporte justement une différente dimension à l'équipe. Et Pat et moi, je pense qu'on reconnaît que quand tu es pour jouer une saison de 96 matchs et aller dans les séries et d'aller aux États-Unis pendant 2 mois et demi, tu es mieux d'avoir des bonnes personnes dans ton équipe. Et c'est arrivé. On a eu une coupe d'étincelles, pas entre lui et moi, mais entre les joueurs, parfois, tu sais, une grosse saison, une longue saison. Mais le tout s'est calmé très, très, très rapidement. Et moi, j'ai adoré travailler avec Pat. Je pense qu'on était sur la même longueur d'onde. Et puis, on n'avait pas besoin de se disputer pour quoi que ce soit. On était souvent là, sur la même page, et puis on essayait de faire les mêmes choses. On avait le même but en tête, et ça, c'était de remporter des victoires et de bien traiter les joueurs en même temps, parce que c'était une situation difficile.
Assurément. J'aimais ça tantôt parce que tu as parlé de t'espérer que les joueurs montent puis qu'ils étaient peut-être tombés dans l'œil d'un recruteur. Puis ils avaient, les joueurs, un coach qui était un ancien recruteur professionnel des ligues majeures étant toi, évidemment. Est-ce que tu as gardé cet œil-là pendant la saison de recruteur, de dire, hey, lui, écoute, il a le potentiel puis peut-être que je pourrais envoyer un petit message à quelqu'un que je connais d'une organisation, ou tu as gardé cet œil-là?
Définitivement, l'œil du dépisteur, tu le perds pas. T'sais, c'est quelque chose qui reste toujours avec toi. Et puis, oui, c'est sûr et certain, pendant la saison, j'ai justement envoyé des messages à des connaissances dans le baseball majeur au sujet de certains de nos joueurs. Mais je pense que ce qui a nuit à notre équipe au point de vue de joueurs pouvant évoluer plus haut, on n'avait pas de domicile, on n'avait pas un stade avant le mois d'août vraiment où on était à Québec et on n'avait pas accès à l'information analytique de nos joueurs. Les équipes adverses ne nous donnaient pas justement cette information-là. Alors, je pense que c'était plus difficile pour les dépisteurs professionnels de suivre Équipe Québec parce qu'ils ne sont pas toujours pour se déplacer. Souvent, ils vont se fier justement aux statistiques avancées que les équipes peuvent leur donner. Mais il n'y a aucun doute, mon œil de dépisteur, moi, j'ai vu des joueurs que je me demande encore aujourd'hui pourquoi ils étaient au sein de notre équipe et qu'ils n'étaient pas justement dans les lignes mineures. Surtout quand on connaît le système des lignes mineures, tu as besoin de profondeur. Tu as des joueurs qui se blessent à tous les semaines. Et moi, je suis convaincu, juste donner un exemple, les deux receveurs qu'on avait, on avait les deux meilleurs receveurs dans la Ligue. Moi, je suis convaincu que Castro et Parra, c'était les deux meilleurs receveurs dans notre Ligue. Et je serais pas surpris de les voir éventuellement signer un contrat avec du baseball affilié. T'sais, je veux dire, un kid comme LP Pelletier, t'sais, même si une fois grosse, la manière qu'elle a lancé, t'sais, on a des Nick Horvat, un joueur qui était repêché comme voltigeur de centre, mais qui voulait jouer comme lanceur et qui lance 92 à 95. On avait des qualités de joueurs qu'on peut voir justement dans la classe A et peut-être même dans le 2A. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui va arriver peut-être pendant la saison morte, qu'il y a des joueurs qui vont peut-être avoir la chance d'aller un peu plus haut.
Ouais,
Petite
très cool
question,
ça.
une petite balle courbe comme ça, Pierre. Avez-vous essayé de faire frapper Miguel Cienfuegos un peu?
Oui, ouais, à tous les semaines, pas tous les semaines, mais on a eu des pratiques au bâton pour les lanceurs parce qu'on savait qu'on avait David Gauthier, que lui avait signé avec
Ouais.
Trois-Rivières comme premier but. Miguel Cienfuegos, qui est tout un athlète aussi. Alors, on essayait de les faire frapper un peu, mais malheureusement, ils n'ont pas eu la chance
OK.
de se développer comme frappeur. Mais ça m'amène sur un point que toi, Max, connais bien parce que tu travailles à l'ABC, Jeff aussi. Moi, je suis fier justement du talent québécois. Et dans la Ligue Frontier, dans notre équipe Québec, on avait tellement de joueurs, on avait des joueurs québécois, mais c'était des joueurs d'impact dans notre alignement. Allez voir les statistiques de fin de saison et vous allez voir que les LP Pelletier, Joe Lacroix, David Claude, Raphaël Gladue, Cienfuegos, David Gauthier ont tous participé au succès de l'équipe. Et ça, je donne crédit à Baseball Québec, l'ABC et tous les programmes qu'on a en place. Parce que j'ai eu la chance moi-même de voir ce que le talent québécois peut être. Et puis, moi, je pense que c'est excitant pour les années à venir de voir justement tout ce qui se passe au Québec et tout ce qui arrive pour les jeunes joueurs.
Absolument. Puis, tu sais, si je peux faire un peu de millage là-dessus, là, je pense qu'il va en avoir encore plus. Je pense qu'on va finir par avoir les Capitals, les Aigles avec des joueurs du Québec. Il va en avoir beaucoup. Puis, des joueurs d'impact, comme tu as dit, c'est des super bons joueurs. Puis, je pense que, tu sais, c'est des gars que j'ai coachés dans ma première tranche de haute performance parce que j'ai quitté un petit peu, là. Mais dans ma deuxième tranche de haute performance, là, des 6 dernières années, là, il y a des joueurs qui sont de qualité, Frontier League, Minor League. Fait que je pense que ça va. Ça va augmenter, ça va être appelé à être augmenté. Fait que c'est une très bonne nouvelle pour les deux organisations, effectivement.
Je pense que la pyramide maintenant, je pense qu'on peut voir qu'il y a des options. Tu sais, il y a des collèges américains, il y a le baseball affilié professionnel, mais aussi l'option des Aigles de Trois-Rivières, d'Ottawa, qu'on a oublié, et Québec. Fait que ça, c'est toutes des options en haut de la pyramide où un jeune peut se réveiller un matin et dire, hey, j'ai une chance de faire quelque chose dans le baseball. Et comme je mentionnais, le fait que nos Québécois dans notre équipe ont connu du succès, ça prouve à quel point c'est pas juste à Québec qu'ils sont capables de jouer. Ces joueurs-là pourraient jouer dans plusieurs équipes de la Ligue Frontier et à Ottawa et à Trois-Rivières. Alors, je pense que c'est une autre avenue, une autre sortie, une autre ruelle où les joueurs peuvent aller jouer. Et c'est le fun pour le parapluie, justement, de Baseball Québec de voir qu'il y a plusieurs options pour les jeunes.
Effectivement, puis j'ai jamais entendu un joueur dire j'ai pas aimé mon expérience à Québec, c'est jamais arrivé. Ça fait longtemps que je côtoie la majorité des Québécois qui sont allés là. L'expérience est toujours positive, elle est toujours le fun. Les gars veulent y retourner. Puis quand ils arrêtent, c'est parce qu'ils sont forcés d'arrêter à cause des blessures, l'âge, la famille, puis là, ils doivent commencer à travailler pour faire un peu plus de sous parce que tu en as parlé.
Ouais.
Ils ne roulent pas sur l'or, mais c'est jamais une mauvaise expérience, c'est toujours positif. Fait que ça, c'est un autre aspect qui est très important aussi à mettre en balance.
Ouais, croyez-moi, Trois-Rivières, l'année prochaine, vont avoir de la misère à revenir chercher les joueurs qui leur appartiennent à Équipe Québec parce qu'ils ont adoré l'expérience. Et puis, tu sais, mais ça a été le fun. À Trois-Rivières aussi, ça a été le fun. Tu sais, il y avait du monde dans les estrades, il y avait de l'ambiance. Alors, je trouve que le baseball québécois est en bonne santé, mais il ne faut pas être assis et dire, hey, tout va bien.
Oh.
Non, il faut
Ouais.
continuer à développer, continuer à travailler. Tu sais, des gars comme Connor Angel, tu sais, je veux dire, il y en a plusieurs, là, des gars qui ont signé cette année. Alors, je pense que c'est une belle opportunité pour le baseball québécois de vraiment se faire valoir et de démontrer aux Américains, c'est pas à vous autres ce sport-là. Nous autres aussi, on a un impact.
Oui,
Oui, tout à
absolument.
fait. Pierre, le temps passe super vite. Moi, j'ai une dernière question. Peut-être Max en aura une après, mais je veux t'amener. Hier, quand je t'ai demandé si tu étais intéressé à venir en entrevue avec nous autres, tu m'as dit pourquoi? Pour parler des trios du Canadien. On a bien ri. Je ne vais pas t'amener sur les trios du Canadien, mais je veux t'amener sur un sujet qui est délicat ou très populaire ces temps-ci. C'est un peu le sujet de Jonathan Drouin et l'anxiété, performance et tout ça. Lui, c'est beaucoup envers le hockey. Est-ce que, par exemple, je t'amène là, peut-être tu vas avoir d'autres exemples, mais le fait d'être loin de leur famille pendant l'été, pendant une cinquantaine de matchs, comme on a dit, est-ce que ça a amené une certaine anxiété avec certains joueurs? Est-ce que ça a joué sur le moral de certains joueurs? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans le baseball? J'imagine que oui, mais est-ce que tu as été témoin de ça, ton expérience par rapport à tout ça?
C'est pas juste nos joueurs, hein. Je me mets partie de ce groupe-là, Pat aussi. Souvent, Pat et moi, on se parlait dans les autobus, dans le bureau, tu sais, on parlait de nos familles. Et puis, c'est vraiment les sacrifices qu'eux font aussi, là. C'est pas le père qui fait le sacrifice. Il faut vraiment que tu aies une bonne. Faut que ton épouse, qui est mère de famille, faut que c'est elle vraiment la fondation qui tient le couple et le groupe ensemble de familial. Et oui, il y a des joueurs que ça commençait à être long, ça commençait à être difficile. Tu voyais que, tu sais, des jeunes joueurs que leur épouse est à la maison ou leur blonde qu'ils n'ont pas vu pendant 3 mois, c'est difficile. Mais on vivait toute la même expérience, alors on pouvait s'en parler. Et je pense que c'est ça la différence entre aujourd'hui, Jonathan Drouin d'aujourd'hui et il y a 20 ans, 30 ans, quand j'ai commencé dans le baseball majeur. C'est quelque chose qui était un peu plus tabou. Tu parlais pas de ça, parce que si tu parlais de ça, tu étais soft, tu étais mou, tu étais. T'sais, mais aujourd'hui, je pense que c'est bon d'en parler. Moi, là, quand j'étais dans l'enclos des releveurs, là, tu voyais qu'il y avait des anxiétés. Les lanceurs, là, avaient beaucoup d'anxiété. Il y en a qui vomissaient avant chaque match. Et puis, un gars comme Ben Sheets, qui était avec Milwaukee, un excellent lanceur au match des étoiles, il a vomi avant le match. Pourquoi? Il était nerveux. Mais ça, c'est de l'anxiété. Moi, j'ai vu des gars au sein des Marlins, à chaque soir, à chaque départ, qui était anxieux. Alors, je pense que c'est une bonne chose qu'on soit capable d'en parler et de réaliser c'est correct. C'est correct. Si on en parle, les choses vont mieux aller et on peut justement peut-être prévenir en même temps. Et je pense que l'ouverture d'esprit, nous, on l'avait dans l'autobus, on parlait de toutes sortes de sujets. Et je pense que c'est une très, très, très bonne chose de pouvoir en parler.
Surtout qu'il y a plus d'outils aussi maintenant. Là. Tu sais, même
Oui.
les jeunes, je travaille avec des plus jeunes pour ma part, tu sais, à 16, 17, 18 ans, même que le joueur me dise, moi, j'ai un trouble d'anxiété, tu sais, puis qu'il verbalise, puis que nous, on peut amener des outils pour l'aider. Je pense que ça facilite la discussion. Fait que, au moins, présentement, c'est plus positif, mais c'est sûr qu'avant de se l'avouer, on a encore certains réflexes de non, je ne veux pas paraître soft ou mou, puis je ne veux pas paraître faible. Fait que je vais le garder pour moi. Fait que ça fait juste augmenter. Tu sais, où ce que Jonathan Drouin s'est allé, c'est que ça l'a augmenté à un niveau suprême, que là, c'est la marmite à sauter parce qu'il ne savait pas comment le verbaliser. C'est ce qu'il disait dans son entrevue. Là, il est capable de le dire. Là. Mais
Ouais.
effectivement, c'est quelque chose avec lequel on vit. Là.
Moi, j'ai
Tout
toujours cru que je suis peut-être dans le champ là, complètement, mais je pense que c'est plus facile pour un jeune de devenir quasiment premier ministre du Canada que celui de devenir un athlète professionnel. Un athlète professionnel, pendant toute ta vie, il y a plein de parents, plein de jeunes qui vont dire, oh, il n'est pas bon, lui, il n'est pas bon, il ne va pas faire le 2A, il ne va pas faire le 3, il n'est pas bon, il n'est pas. Mais on dirait que quand quelqu'un aspire à être médecin ou d'autres choses ou même premier ministre, on dirait que tout le monde t'encourage. Oh, wow, ça, c'est une. Mais dans le sport, on dirait que il y a tellement un niveau de compétition et c'est pas vraiment sain parce que souvent, la compétition, qu'est-ce que ça fait? C'est l'aspect négatif qui ressort et c'est l'aspect jalousie et c'est ce qu'on remarque souvent. Et je pense souvent, il y a des jeunes qui sont très bons, mais qui ressentent cette pression-là des gens autour d'eux qui disent tout le temps, oh, t'es pas bon, tu vas te rendre nulle part. Tu sais, c'est sûr que ta famille va t'encourager, mais il y a toujours des voix négatives autour, puis ça, c'est ça qu'il faut éliminer.
faut pas
Tout à
les
fait.
écouter.
Non.
Là, je le sais qu'on a dépassé un peu notre temps. Sylvain nous entend. Ça ne sera pas long, Sylvain.
M'excuse, Sylvain.
Ouais. Pierre, j'ai une dernière petite question pour toi. Récemment, Miguel Cabrera a atteint un plateau impressionnant dans les ligues majeures. Je sais que tu l'as connu de très près, puis je pense que c'est vraiment intéressant pour les gens qui nous écoutent que tu nous parles de Miguel Cabrera.
Moi, j'ai adoré Miguel parce que je l'ai vu en 2003. Il est arrivé avec les Marlins lorsqu'on était l'année qu'on a gagné la Série mondiale. Et c'est un gars plein d'entrain, toujours plein d'énergie. Le sourire que vous voyez pendant le match, à tous les jours, il y a ce sourire-là. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance de lancer la pratique au bâton pendant 2, 3 ans à Miguel. Et puis, avec tous les bons frappeurs que j'ai vus, c'est le meilleur pendant la pratique au bâton qui était capable de tout faire sur un terrain. Et puis, je suis tellement fier de voir les choses qu'il est en train d'accomplir. Et puis, le fait que j'ai eu la chance de remporter la Série mondiale et que Miguel était là, Dontrelle Willis, des jeunes d'impact qui sont arrivés sur la scène et qui n'ont pas eu peur et qui se sont justement implantés dans l'esprit d'équipe. Moi, je suis très fier de Miguel. C'est un gars que j'ai adoré, que j'adore encore aujourd'hui et que j'étais vraiment fier de voir. Son 500e circuit. Et
Ouais.
aussi, c'est un gars qui frappe 311 en carrière. Il ne faut pas oublier.
Ah ouais.
Tout un frappeur, ce n'est pas juste un frappeur de puissance.
Il est top 20, je pense, au niveau de la moyenne dans l'histoire.
Ah, il s'en va
Puis
au
ce
temple
que
de la
j'aime, c'est
renommée.
que, tu sais, on parle de shift en défensive. Où avec Miguel, tu ne pouvais pas faire ça parce que Miguel pouvait prendre une balle rapide au coin extérieur, la frapper au champ droit, il pouvait prendre une balle courbe, la frapper au champ. sais, c'est un gars qui était tellement. C'est pour ça qu'on parle de statistiques avancées et tout ça. Un gars comme Miguel pensait jamais aux stats avancées. Lui, il pensait au lanceur, puis comment il était pour essayer de le retirer à 7h30 le soir. Alors, c'est un gars qui était pur et simple. Tu sais, see it and hit it. C'était vraiment sa philosophie, puis ça y a porté fruit, mais un talent incroyable.
Oui, tout à fait.
Fantastique.
Pierre, on pourrait continuer comme ça pendant plusieurs minutes, voire des heures, ce qu'on a déjà fait ensemble. Je te remercie beaucoup, Pierre.
Merci,
C'est super
Pierre.
intéressant.
Ça m'a fait
Merci.
plaisir de continuer votre bon travail.
Bien gentil.
Un gros merci. On fait une pause, puis on va rejoindre Sylvain Saint-Don.
Salut, Jess, ça va bien?
Ah, très bien, ça va très bien.
Écoute, je suis en train de souffrir d'anxiété dans le sac d'attente,
Non, 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 c'était un long at-bat, là. C'était
là.
plusieurs fausses
C'est
balles.
ça. Ça faisait longtemps. Écoute, très rafraîchissant d'entendre Pierre parler
Ah oui, vraiment.
des opportunités, des options pour nos jeunes joueurs de baseball. C'est vraiment le fun d'entendre, puis c'est très positif pour les jeunes qui s'en viennent.
Tout à fait.
J'ai eu quelques discussions avec Pierre, puis à chaque fois, c'est tout le temps, écoute, on n'a jamais assez. Sylvain, quand je t'ai demandé le sujet de ta première chronique de la saison avec nous, tu m'as envoyé une photo d'un hamburger. Peux-tu nous expliquer un peu où tu veux t'en aller avec ça?
Ben écoute, en 2000, c'est un article de journal en 2005. Je recule dans le temps, JF, parce qu'à ce moment-là, je suis entraîneur à l'ABC. Je m'entraîne surtout la portion physique, les frappeurs. Puis, je suis entraîneur personnel de ma vie. Puis, je suis assommé de voir un article dans le journal au mois de janvier 2005 qui dit qu'il y a un groupe d'adolescents obèses qui poursuit McDonald's en justice pour les avoir rendus trop gros. À partir de là, je me dis, OK, là, je viens de prendre connaissance d'un mot que j'avais pas été vraiment conscient auparavant, qui s'appelle la déresponsabilisation. Comment qu'un groupe de jeunes, un groupe d'individus peut accuser McDo, là, à moins que l'école ait amené de force les enfants dans le McDo, puis etc. Là, je sais pas trop l'histoire, puis je l'ai pas plus lu, puis je voulais surtout pas connaître le dénouement que le juge a pu faire, mais bref, ça m'assommait de voir comment qu'on pouvait se retourner de ce côté-là. Puis, suite à plusieurs discussions, les années ont suivi, puis j'ai commencé à être sensible à ce sujet-là un peu. Puis, un de mes amis qui travaille dans le monde de l'éducation, quand j'ai jasé avec lui de tout ça, il dit, ben, c'est bien, il dit, arrive en ville, là. Puis, il m'a envoyé une petite vignette, un petit dessin qui illustrait tellement bien le phénomène qu'il vivait à l'école. Et c'était que, avant ça, c'est que tout était manifeste vers l'enfant, de dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi que les notes ne sont pas à ton goût. Et maintenant, on est reviré vers le professeur en disant, qu'est-ce que tu as fait? Comment c'est que mon gars n'a pas des bonnes notes? Fait que, encore une fois, là, c'est comme un mouvement qui se fait dessus. Puis, à sa grande surprise, il me disait, Sylvain, il dit, tu dois vivre ça dans le coaching aussi. Il dit, tu dois vivre ça au baseball. Puis là, mon petit hamster se faisait aller, puis je disais, ouais. C'est vrai, je rencontre beaucoup de parents qui disent, ouais, mais le coach n'est pas bon, il n'a pas une bonne saison, c'est à cause du coach, tatata. Puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, ouais, il y a toujours des coupables, tout ça. Mais à la toute fin, Jeff, là, ce que je réalise encore plus dans les dernières années, les grands perdants de cette déresponsabilisation-là, c'est les arbitres. Les arbitres qui est la dernière ligne de défense. Ils se font jeter une mare de responsabilité dans des situations qu'ils ne méritent pas. Puis tous les sports, le
Merci.
baseball, tous les sports n'échappent pas à ça. Puis je suis comme assommé d'entendre. Je rencontre un parent avec son fils de 12-13 ans au centre d'achat en plein hiver. Ils reviennent d'un tournoi de hockey. Le kid est dans mes écoles de baseball à ce moment-là. Puis il jase avec le parent, avec le père en question, puis il arrive d'un tournoi de hockey, puis on s'est fait voler, l'arbitre nous a enlevé, en quart d'un but qu'il n'aurait pas dû, ça a changé la game, on a perdu à cause d'arbitre. Le kid de 12-13 ans à côté, il dit, papa, il dit, on a perdu 6-1, là. Tu sais, c'est comme, fait que je dis, ouais, 6-1, ouais, mais ça a tout changé, puis tout ça. Là, le kid, il a 12-13 ans, là, puis il dit à son père, il dit, papa, il dit, 43 lancés contre 7, il était bien trop fort pour nous autres. Comment qu'un adulte, dans sa réflexion, peut arriver à voir que c'est l'arbitre qui était l'élément déterminant dans cet événement-là. Puis, dans des événements, j'ai des tournois, des, un match de baseball. Écoute, un match de baseball, le frappeur gaucher au bâton, lancé au coin extérieur, le frappeur troisième prise, retiré, le frappeur l'a regardé passer. Comment que des parents dans les estrades du premier but, avec le frappeur dans leur dos, peuvent contester le fait que c'est une prise?
Oui, puis tu sais, j'aime beaucoup le sujet, en fait, puis je pense que c'est un sujet qui revient quotidiennement, les arbitres, même hebdomadairement, je dirais plus. Puis moi, dans une ligue de softball, c'est aussi la même chose, mais des fois, c'est les joueurs. Tu sais, les joueurs, le premier lancé de la présence, ne sont pas d'accord avec le pitch, puis ça change la présence au complet, puis c'est la faute de l'arbitre s'ils se font retirer au bâton à la fin. Puis je suis tellement d'accord avec ce que tu amènes. Puis tu sais, tu m'as parlé d'un exemple, Max, c'est sûr que tu en as vu aussi là, des exemples comme ça. C'est jamais de la faute du joueur, c'est de la faute des arbitres. Mais tu sais, tu m'as parlé d'un exemple, Sylvain, aussi, que je trouve super intéressant là, sur la chaîne d'erreurs qu'il y a eu. Là. Je sais que tu t'en vas là.
Oui,
mais...
c'est typique. Ben, tu sais, pour enchérir, tu vas avoir un petit joueur de réco qui échappe la balle et regarde son gant. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gant-là? Il en faut un nouveau? Perdu dans le soleil, mauvais bon. Écoute, c'est weird parce qu'à quelque part, on chicane de moins en moins les enfants, mais la réaction qu'on a, la peur de se faire chicaner, on dirait qu'elle est encore plus grande qu'auparavant de dire non, c'est pas de ma faute. Puis dans la chaîne d'erreurs que Jeff, je t'ai déjà raconté, puis écoute, c'est drôle parce que je pense que le tournoi que je fais référence, Pierre Arsenault était un des entraîneurs, il coachait son fils à ce moment-là. Donc c'est très spécial. Écoute, je te raconte ça parce que ça vient bien résumer la situation. Jeff, la balle est frappée au joueur de premier but. Premier but jongle un peu avec la balle, il échappe. Correct? Pas de problème, il récupère la balle, il va relayer à qui? Au lanceur qui vient couvrir le premier but. Mais le lanceur, non, il pense pas, il est découvré, lui, il bouge pas de son monticule. Évidemment, il réalise en retard qu'il faut qu'il aille couvrir au premier but. Donc, il part, le joueur de premier but. Jeu de football un peu, là. Lanceur, le coureur arrive en même temps. Joueur de premier but lance ça tout croche dans la clôture. Donc, le coureur est sauf. Évidemment, les balles dans la clôture, le coureur fait quoi, Jeff?
Oh, ben,
le deuxième but. Le lanceur récupère la balle, lance au joueur de réco qui vient au deuxième coussin. Par-dessus, le joueur de réco. Donc.
Siri.
Siri m'a dit, le champ gauche, il faut qu'il couvre. C'est vraiment bien, Siri. Et à ce moment-là, on lance par-dessus le joueur d'Areco qui est au deuxième coussin. Pas de problème. Normalement, le champ gauche, il est derrière le jeu. Non, lui, il a deux bras croisés. Puis il trouve qu'il a des super bons billets. Puis il regarde qu'est-ce qui se passe. Puis il n'y a pas de problème. Il
manque juste le popcorn.
La balle. À cause que la balle passe par-dessus le joueur d'Areco au deuxième coussin, le coureur file vers le troisième but. Évidemment, parce que le champ gauche, il faut qu'il récupère la balle vers le champ. Le coach au troisième but pousse sa loque et envoie le coureur au MAB. Et le coureur, à bout de gaz, à plus de souffle, s'en va au MAB, glisse. Et moi qui est derrière le backstop, l'arrêt de balle, je pense sincèrement qu'il est retiré, mais aux grandes dames de la défensive et de tous les parents derrière, l'arbitre. Sauf le coureur est sauf, on marque un point, et là tout le monde saute partout, tout le monde est enragé en défensive parce que l'arbitre a collé le joueur sauf, il était supposé être mort, ben, les parents ils ont de l'écume sur le bord de la bouche, écoute, ça s'en va dans tous les centres. Et là, évidemment, je regarde la scène, puis comme j'étais un peu comme assommé, puis là je m'en vais après la manche, je m'en vais directement vers le banc au premier but pour entendre un peu les commentaires des entraîneurs par rapport aux joueurs, puis les joueurs reviennent en défensive, puis le champ gauche, il se fait dire, bon, ben, écoute, beau lancer au mât, bravo, il est à mort, t'as bien fait ça, tout est beau, tout ça. Mais au final, JF, là, il n'y a personne qui a parlé au joueur de premier but qui a échappé la balle puis qui l'a mal lancé dans clôture, ce qui fait deux erreurs sur le même jeu. Personne n'a parlé au lanceur qui est allé mal couvrir le premier but qui était supposé d'y aller. Personne n'y a dit un mot.
Il l'a lancé dans le champ.
Il a récupéré la balle, il l'a lancé beaucoup trop haut. Personne n'a chialé contre ça. Personne n'a chialé non plus contre le champ gauche qui avait deux bras croisés qui n'a pas été couvrir en arrière du joueur qui est allé au deuxième but. Au final, là, la seule personne qui a écopé, c'est qui? C'est l'arbitre. Puis on n'aurait jamais dû se rendre à lui, Jeff. On n'aurait pas dû se rendre à lui. C'est ridicule. Ça veut dire que on aurait dû blâmer beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de joueurs avant de blâmer l'arbitre. L'arbitre était. Il est le dernier, c'est le moins coupable du groupe, mais c'est lui qui reçoit le plus d'insultes, le plus de bêtises des gens, etc. Puis dans le fond, c'est vraiment que c'est les autres qui ont produit ouais. ça.
Max, toi qui as été arbitre et entraîneur, est-ce que tu vois une solution à ça?
Ben, une solution. C'est sûr que c'est tout à fait facile de mettre le blâme sur l'arbitre parce que c'est lui qui est tout seul dans son camp. Mais tu sais, à la fin de la journée, il y a une situation qui ressemble à ce que Sylvain a décrit qui s'est passé dimanche avec les gars de l'ABC. C'est la première fois que je voyais ça en 6 ans. La balle, là, on joue au tennis. Là, puis personne ne voulait la frapper, personne ne voulait la pogner. Ça finit que c'était un homme au premier but, roulant au premier but. Donc, balle à double jeu facile. Ça finit qu'on donnait un point, puis le frappeur-coureur a fini sur le troisième but. Fait que tu as idée que ça ressemble un peu à ce que tu viens de dire, Sylvain. J'ai pas dit un mot avant le dernier, avant le speech de la fin de la game. Puis mon speech était faut se responsabiliser, puis faut être meilleur dans chacune de nos actions. Puis c'est là que je rejoins Sylvain, où il faut arrêter de chercher des coupables, puis il faut se regarder. En tant que coach, tu veux que les joueurs soient responsables. Puis la première chose, là, si tu veux savoir si un joueur est capable de l'amener à un autre niveau, là, c'est qu'il est capable de te dire ouais, c'est de ma faute parce que j'ai pas été assez bon, j'étais pas assez focus, j'ai pas fait mon covering. Quand un joueur est capable de reconnaître son erreur, comme un coach doit être capable de reconnaître son erreur, c'est là que tu avances. Puis à partir de ce moment-là, tu n'as plus besoin de regarder les arbitres. Tu n'as plus besoin de. OK, l'arbitre, là, souvent, je vais dire, dans ta présence au bâton, là, tu as un pitch qui t'appartient, qui va être super beau, tu vas être capable de le driver. Il y a un pitch que le lanceur va faire parfaitement, qui va être difficile à frapper. Il y a un pitch que l'arbitre ne sera pas d'accord avec lui.
C'est vrai.
Fait que manque-les pas. Sois prête pour le pitch qui va t'appartenir. Fait que tu le sais. Puis à la fin de la journée, là, ce que je répète le plus souvent, c'est « so what ». Il a callé mal, tu pensais qu'il était safe, « so what », rentre au banc, passe à autre chose. Parce que si tu t'appuies toujours sur l'arbitre, à un moment donné, ça va être ton seul point de focus. Tu ne seras pas capable d'aller à un prochain niveau. Tu ne seras pas capable de t'améliorer. Tu ne seras jamais capable de dire « c'est moi qui l'ai manqué ». Tu comprends? Fait que c'est le plus souvent possible, on enlève l'arbitre de l'équation. Puis c'est pour ça que dans les dernières années, je sors de moins en moins ces arbitres, sauf quand c'est de la réglementation qui est mal appliquée. Puis quand je ne suis pas d'accord avec eux sur la zone de prise, ben je fais comme j'ai fait vendredi passé. Pendant qu'il nettoie son marbre, je dis « Luc, t'étais pas un peu out la dernière? » « Non, non, elle était borderline. » « OK, c'est beau. » Puis je continue à marcher. Puis « so what, on passe à autre chose. » Je sais qu'il va caler là. On continue à s'acharner là. C'est juste qu'à un moment donné, si ce n'est pas la réglementation, tu passes à autre chose. Passe à autre chose parce que tu vas toujours les trouver pas bons, puis tu seras jamais d'accord avec eux à chaque fois que ça va aller de l'autre côté. Fait que.
Est-ce qu'il y a des façons d'amener, parce que, encore une fois, Sylvain, on a parlé de ça un peu, mais moi, personnellement, ma première présence au bâton, puis là encore là, c'est une ligue de softball, c'est pas au baseball, mais j'étais quand même comme ça dans le temps. Je dis tout le temps à l'arbitre, hey, comment ça va, salut, tu sais, je veux qu'il soit parti de la game, puis souvent, je suis le premier frappeur du match aussi, c'est pour ça que je fais ça, là, mais. Tu sais, comment faut établir une relation avec les arbitres? Moi, ça a été quand même assez naturel. Je ne suis pas quelqu'un qui sort pour rien. Mais est-ce qu'il faut impliquer les joueurs plus jeunes dans l'arbitrage, exemple dans les sports-études? Est-ce qu'il faut amener à comprendre la facette ou voir dans les yeux d'un arbitre? Comment est-ce qu'on peut modifier ça?
Écoute, Jeff, c'est une excellente observation. Je vais te résumer. Je vais te résumer un parent, à un moment donné, dans une jasette, qui me disait qu'il chialait beaucoup avec les arbitres. Puis depuis que son gars arbitre, il a complètement un autre facette. il est tranquille, ça, non, là. Il dit au contraire, il dit quelqu'un charle après mon gars qui arbitre, puis il dit morbide, puis il dit je suis le pivot, ça m'écœure. Ben, je pense qu'il faut que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas une veste anti-balle, cet individu-là qui arbitre. Là. Donc, c'est une des premières étapes. L'autre chose, comme Maxime dit, en tant que coach, il faut que tu élimines cette équation-là. Si tu prendre le respect à tes athlètes de dire l'arbitre, il faut oublier ça. Mais tu es le premier à foncer vers l'arbitre à tous les jeux dans un match. Tu n'es absolument pas crédible. Tu ne peux pas arriver et foncer vers l'arbitre pour dire etc. Mais si, comme entraîneur, comme parent, tu as un discours calme à l'effet de dire l'arbitre au troisième but, il était vraiment sauf, je pense que l'arbitre l'a manqué. OK, boys, on passe à autre chose. T'sais, si tu as ça, puis ça ne t'ébranle pas comme coach, puisque tu es tout de suite de la mêlée, puis là, je dis coach parent parce que je trouve qu'on est tous dans la même équipe, là. À ce moment-là, ça change complètement la dynamique. Puis Jeff, c'est un très bon point en disant bonjour à l'arbitre, bonjour Stéphane, puis il n'y a rien qui empêche de savoir le prénom de l'arbitre puis d'établir tout de suite ce lien-là. Il n'y a rien qui empêche ça. c'est vraiment, je pense, une culture dans le sport, dans nos interactions, que de faire en sorte que l'arbitre fasse partie du jeu, mais présentement, dans la population, puis là, j'inclus beaucoup d'autres sports, évidemment, pas rien que le baseball, mais présentement, c'est une troisième équipe. Présentement, dans l'optique de la population, c'est une troisième équipe. Puis cette équipe-là, on espère qu'ils ne vont pas prendre pour une des deux autres équipes. Tu sais, c'est ça. Puis c'est aussi ce fait, Jeff, qui est impressionnant. Quand l'arbitre, il prenait pour l'autre équipe, comment ça? Il n'y a pas d'arbitre qui arrive le soir avec sa blonde en prenant un verre de vin et dit hey, je suis content, les Bleus ont gagné aujourd'hui, il y a ça. Il n'y a pas d'arbitre qui fait ça.
Non, puis c'est ça, il faut que tu enlèves. Comme coach, là, moins que tu focuses ses arbitres, moins ton équipe va focuser ses arbitres. Plus que tu vas mettre de l'emphase là-dessus dès le début du match, plus que tes joueurs vont embarquer là-dedans, puis vont parler à l'arbitre, puis vont ridiculiser l'arbitre, puis c'est un cercle vicieux. Fait que plus que tu fais abstraction de ça, plus que tes joueurs vont focuser sur ce qu'ils ont à focuser. Fait que c'est la chose à faire en tant qu'entraîneur, puis d'éviter que l'arbitre devienne le point de focus de ton groupe collectivement.
Même une présence de bâton, JF, tu sais, la troisième prise est louche un peu. Là. L'arbitre l'a appelé, est louche, tu t'en vas au banc, t'es furieux un peu. Ben, c'est sûr, si tu parles à l'athlète de sa troisième prise, tu n'auras pas un bel échange. Mais parle-moi de tes deux premières. Parle-moi des deux premières prises, par contre. Il s'est passé quoi dans les deux premières prises? T'sais, c'est sûr que quand tu affrontes un bon lanceur et l'arbitre n'échappe une, ta marge de manœuvre n'est pas grande, on va se le dire. Mais t'es quand même responsable du deux tiers du retrait sur trois prises. Là. T'sais, deux fois plus que l'arbitre. Là.
Ouais.
À ce moment-là, c'est beaucoup, comme Max a dit, de rester dans le champ de ta responsabilité, qu'est-ce que tu peux maîtriser, puis de surtout... Puis c'est un peu ça qui est plate au baseball, c'est qu'on a l'opportunité d'aller sur le terrain puis de confronter l'individu que la plupart des sports n'ont pas. Donc, cet avantage-là devient un désavantage dans tout le processus du baseball amateur. Professionnel, il y a spectacle, il y a comme un folklore qui accompagne ça, qui est très différent. Puis, dans les niveaux du baseball amateur au Québec, le fait d'aller voir des arbitres, de foncer vers eux pour des discussions, c'est peut-être quelque chose à revoir, peut-être quelque chose qu'on a-tu vraiment besoin de ça.
Oui, puis je pense qu'il y a une façon de créer un lien. Tu sais, je me rappelle dans mes années, quand j'ai commencé à coacher, il y avait un arbitre qui venait, je pense, de Québec, puis il prenait nos line-up, là, puis OK, Max, Sylvain, OK, parfait. Puis quand il y avait de quoi, là, c'était « Hey, Max, viens ici. Hey, blablabla. Sylvain, viens ici. Hey, j'ai vu telle affaire. » Donc, il créait un lien comme ça. Bon, il était un peu plus vieux, mais tu sais, un jeune arbitre, là, ça l'empêche pas de m'appeler Coach Max. « Coach Max, viens ici, s'il te plaît. Telle affaire, j'ai vu. » Créer un lien déjà. Là, les arbitres ont peur parce qu'ils veulent éviter la discussion, quand au contraire, quand tu crées un lien déjà qui est un peu plus « friendly », ben, ça calme les individus au lieu de sentir qu'il y a une barrière entre les deux personnes. Fait que moi, je pense que d'apprendre le prénom des arbitres et des coachs, ça peut déjà créer un lien qui est plus agréable. Puis moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'ai commencé à coacher, que l'arbitre m'appelait Max puis venait jaser avec moi, puis des situations. Fait que ça désamorçait un petit peu l'optique de dans ce temps-là, j'étais un peu plus fou puis j'étais un peu plus tata. Fait que ça désamorçait un petit peu le goût du sauter à la gorge à chaque fois qu'il collait quelque chose que je n'étais pas d'accord. Là.
Ah, assurément.
La candeur de tes 20 ans, Max.
Hein?
La candeur et l'innocence de tes 20 ans.
OK, calme-toi, là. ça fait.
Les gars, ça fait réagir beaucoup sur Facebook. Je vous invite à aller voir ça, même peut-être répondre à quelques commentaires qui sont là personnellement. C'est déjà la fin. On a dépassé un peu, mais pour vrai, je pense que ça valait la peine. Là. C'est un sujet qui mérite d'être parlé de plus en plus et encore plus. Merci les boys. J'invite tout le monde encore à aller sur les réseaux sociaux pour revoir nos épisodes, dont celui-là qui va être disponible dès midi en audio. Sylvain, un gros merci. On se revoit pour la chronique numéro 2 prochainement. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi ton prochain sujet. Max, un gros merci pour ce show-là. Nous, on se revoit lundi prochain.
Absolument.
Merci tout le monde encore. Là. Vous êtes nombreux à être là. Un gros merci. Bonne fin de journée.
Merci. Bonne fin de journée.
Membre de la famille H2O Web Media.